D'instinct, ces propos provoquent en moi une résistance. Une pensée m'envahit. Pratiquement tous les aspects de ma vie dépendent des autres. Ma précieuse autonomie est une complète illusion, un fantasme. Une profonde interdépendance naît de cette prise de conscience. J'en éprouve du soulagement et, je ne sais pourquoi, cela me donne envie de pleurer. Notre besoin des autres est paradoxal. Alors que dans notre culture, nous ne jurons que par une farouche indépendance dont nous nous rendons prisonniers, nous n'en aspirons pas moins à vivre une intimité unique avec l'être aimé. Nous concentrons toute notre énergie sur la découverte de celui ou celle qui, nous l'espérons, va nous guérir de cette solitude, et ce, sans renoncer pour autant à notre illusion d'indépendance. Cette relation d'intimité, difficile à établir avec une seule personne, j'allais découvrir que le Dalaï Lama est capable de la créer avec quantité de gens, et que cela fait partie de ses recommandations. En réalité, ce qu'il vise, c'est entrer en relation avec tout le monde. Dans notre culture, l'idée que la plus forte intimité se vit dans le contexte d'une relation passionnelle est largement répandue. Or, ce point de vue peut se révéler très limitatif, nous couper d'autres sources potentielles d'intimité et causer beaucoup de souffrance et de chagrin dès que l'être unique n'est plus là. L'intimité qui est l'un des ingrédients essentiels du bonheur, selon le Dalaï Lama, repose sur la volonté de s'ouvrir aux autres, à la famille, aux amis et même aux inconnus, de nouer des liens authentiques et profonds fondés sur l'humanité qui nous est commune à tous. Alors naturellement, cette question me vient à l'esprit. Quelle est, selon vous, la méthode la plus efficace pour aborder les gens et réduire les risques de conflit?
Aborder les autres est une question très complexe. Il n'est pas possible de tout résoudre par la magie d'une seule et unique formule. Pour aborder les autres avec tact et savoir-faire, beaucoup d'éléments sont requis. La sympathie est essentielle à mes yeux. Devant la difficulté, il est extrêmement utile de savoir se mettre à la place de l'autre, de renoncer temporairement à son propre point de vue pour adopter celui de l'autre. Voilà qui vous aidera à prendre conscience de vos sentiments envers lui, ce qui n'est pas sans importance si l'on veut résorber les conflits et les problèmes. Chaque fois que je rencontre des gens, je les approche à partir de nos points communs les plus élémentaires. Chacun d'entre nous possède une enveloppe corporelle, un esprit, des émotions. Tous, nous sommes nés de la même façon. Tous, nous mourrons. Tous, nous souhaitons le bonheur et ne voulons pas souffrir. Considérer les autres sur cette base me permet d'aller à la rencontre de mon semblable, tout simplement. Je trouve qu'établir la relation à ce niveau facilite grandement le dialogue et la communication.
Il est attesté que les liens étroits du mariage améliorent la santé et, dans l'ensemble, rendent l'existence plus satisfaisante. Alors d'après vous, pourquoi les conflits semblent-ils si fréquents dans la vie de couple?
La question s'avère complexe. Pour comprendre, il faut réfléchir posément sur la nature fondamentale de la relation, sur ce qui en constitue la base. On trouve souvent des couples dont l'union ne repose que sur l'attirance sexuelle immédiate. Quand un homme et une femme viennent de se rencontrer, ils sont follement amoureux, très heureux. Mais toute décision de mariage prise à cet instant risque fort d'être sujette à caution parce qu'elle repose sur un phénomène éminemment provisoire. Ce sentiment aura une durée de vie très courte. Il s'apparente à une maison que l'on aurait bâtie sur des fondations de glace. Aussitôt que la glace fond, la maison s'écroule. Si on cherche à construire une relation vraiment enrichissante, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de s'attacher à découvrir en profondeur la nature de l'autre et d'établir un rapport avec lui ou elle à ce niveau, au lieu de le faire sur la seule base des traits superficiels. Souvent, des gens m'ont confié que leur mariage avait un sens plus profond que celui d'une simple relation sexuelle. Pour eux, le mariage supposait que deux personnes tentent de lier leur existence, de partager les hauts et les bas de la vie et une certaine intimité. C'est bel et bien là la base sur laquelle il convient de construire un couple. Un rapport solide suppose un certain sens de la responsabilité et l'engagement envers l'autre. Il en va de même pour les amitiés. Certaines sont fondées sur le pouvoir et la réussite. En ce cas, l'amitié perdure tant que subsiste la richesse ou la position sociale. En revanche, il existe une autre sorte d'amitié qui repose sur un véritable sentiment humain, un sentiment de proximité, intégrant le partage et la communication. C'est là ce que j'appellerais une amitié authentique. Et dans ce genre de relation, la compassion a son rôle à jouer. La compassion se définit sommairement comme un état d'esprit non violent, non offensif, non agressif. C'est une posture mentale fondée sur le souhait de voir les autres se libérer de leurs souffrances et qui va de pair avec le sens de l'engagement, de la responsabilité et du respect d'autrui. Tous les êtres humains caressent le désir d'être heureux et de surmonter leurs souffrances, tout comme nous. Et tout comme nous, ils ont naturellement le droit de réaliser cette aspiration fondamentale. Une fois reconnue cette communauté d'aspiration, il se déploie un sentiment d'affinité et de proximité avec l'autre, qu'il soit perçu comme un ami ou encore comme un ennemi. Cette compassion repose davantage sur les droits fondamentaux de l'autre que sur notre propre besoin d'être aimé en retour. Personne n'échappe à la douleur. C'est la réalité. Personne n'échappe à la douleur. C'est la réalité.